du U, encore du U.
Heures, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio U. Vous écoutez votre quotidienne d'info locale, c'est vous qui le dites, et on se retrouve enfin après ce week-end. J'espère que vous en avez profité à fond. Nous, on retourne sur de bonnes bases avec en deuxième partie d'émission une interview de Flavia Coelho réalisée par Anton et un reportage réalisé pendant l'exposition photo Brest jour et nuit qui a lieu en ce moment à la maison de Gelmer à Brest. Mais pour commencer notre émission, on accueille Sébastien et Anna qui nous présentent le festival Quartier qui aura lieu le 31 octobre au patronage laïque de Bellevue. Bonjour Sébastien, bonjour Anna.
Salut Zoé.
Bonjour.
Le festival Quartier, organisé par les étudiants du Master Direction de Projets et d'Établissements Culturels, et se déroule donc dans le quartier de Bellevue. Le festival se déroule... Pourquoi choisir ce quartier en particulier, Bellevue ?
Alors, ça a été une longue réflexion au début, il faut dire la vérité. Mais très rapidement, on a voulu faire... Donc, c'est dans le cadre de notre projet de fin d'études, ce projet. Et on voulait quelque chose d'accessible pour tout le monde, toutes et tous. Et très rapidement, on s'est dit des quartiers prioritaires. Il y en a plusieurs dans Brest. Et on avait un petit coup de cœur pour Bellevue. Donc, ça s'est fait aussi sur Bellevue. Et puis, il y a eu des partenariats, des rencontres qui se sont faites. Je ne sais pas si Anna, tu veux approfondir sur nos partenariats. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui a fait que ça s'est porté sur Bellevue.
C'est vrai que Bellevue, c'est un quartier qui a la chance d'avoir plein de structures sociales sur place. Donc, on a pu travailler avec le patronage laïque du Bergotte. On a pu travailler avec le centre social aussi. Donc on avait plein d'interlocuteurs sur place, donc ça semblait plus logique de le faire là-bas.
Il y a un thème de prévu pour l'événement, c'est la lumière. Pourquoi cette thématique ?
Alors on s'est porté un peu sur la lumière parce que comme notre festival arrive un peu tardivement dans l'année, qu'on s'approche un peu de plus en plus de la saison hivernale, on s'était dit que la lumière, ça pouvait être sympa pour se rapprocher, puis il y avait un côté réconfortant dans la lumière.
En quoi les spectacles qu'on pourra voir répondent à ce sujet justement de la lumière ?
Alors, comme disait Anna, c'est aussi un état d'esprit hein, sur ce qu'on veut sur la lumière. On précise hein, quand même, on n'a jamais imposé, on n'imposera pas aux artistes qu'on a programmé de travailler sur la lumière. Pour autant, c'est vrai que c'est des choses qu'on va retrouver si on parle de la programmation, puisque c'est aussi ça ta question. Dès 16h30, on pourra retrouver Hector Le Pêcheur, de son vrai nom Paul. Paul, justement, va nous emmener dans un univers... complètement féerique, poétique à travers le jonglage. Donc c'est un mélange de poésie et de cirque, ce qui est quand même assez rare, donc on est quand même fiers de pouvoir le programmer. Et puis des enfants de Bellevue qui viendront le voir à partir de 16h30 le connaîtront, enfin en tout cas pour certains, puisqu'ils l'auront vu la veille dans des ateliers que justement Anna et Yuna, donc Yuna qui n'est pas là mais qu'on salue, ont mis en place. Peut-être qu'Anna, tu veux dire un mot là-dessus, mais c'est vrai que les enfants connaîtront Paul, hashtag Hector le pêcheur.
C'est vrai qu'on travaille en amont du festival avec les enfants, donc on fait de l'action culturelle dans les centres aérés, celui du patronage laïque et du centre social. Et on a beaucoup travaillé sur des ateliers artistiques là toute la semaine et la semaine dernière. Et on a pas mal travaillé sur le thème de la lumière, du coup, pour un peu raccrocher à notre fil rouge. Et donc, c'est vrai qu'ils vont pouvoir faire des ateliers de cirque avec cet artiste qui ouvrira le festival. Tout au long du festival, on a d'autres pièces qui seront jouées. Ensuite, après Hector le Pêcheur, il y aura Donjon et Pigeon de la compagnie Heidi a bien grandi, qui est une pièce de théâtre qui reprend des contes de princesses, mais bien revisités avec humour pour petits et grands. Et puis à partir de 18h30, ce sera soirée musicale. Donc ça commencera avec Stérène Alix, qui est une chanteuse brestoise folk.
Et puis on finit justement sur la question de la lumière en fanfare, parce que ça fait du bien, on a besoin en ce moment... Voilà, il commence à faire froid, tout le monde est malade, on a besoin de vitamines. Et donc, on finit en fanfare avec la fanfare Funky Dirty Chicken, qui seront là justement pour nous faire le plein de vitamines, le plein de lumière, pour finir ce festival en beauté.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'action culturelle qui a eu lieu, avec, vous avez travaillé avec les enfants, un artiste. Comment ça s'est déroulé cette semaine et comment ça s'est passé pour les enfants ?
Eh bien, c'est moi et Yuna qui avons principalement participé à ces ateliers. Et ça s'est vraiment super bien passé, les enfants sont trop contents. On a fait des ateliers artistiques pour décorer la salle. Et donc on a fait des lampions, on a repris un peu le visuel de l'affiche, donc qui est une baleine qui vole un peu dans les airs et qui porte un bateau. Et donc on a repris ce thème de la baleine un peu féerique pour faire des ateliers avec les enfants. C'est un travail qui est assez long parce qu'on a rencontré les animateurs et les équipes d'animation bien avant pour pouvoir discuter de ce thème et des ateliers. Et là, ça se déroule assez bien. En tout cas, nous, on est super contents de ces ateliers.
Et les enfants sont contents aussi, précisons quand même.
C'est important. Pour ce festival, vous avez travaillé avec les habitants du quartier de Bellevue. Comment s'est déroulée cette collaboration ?
Bah là aussi, il y a eu des rencontres. Hein. On a rencontré des habitants et le comité des habitants de Bellevue. Là aussi, ça a été des rencontres hyper enrichissantes. Puisque voilà, ils nous ont conseillé sur pas mal de choses, ce qui nous a permis justement de réfléchir sur notre programmation, à savoir à partir de quel âge, à savoir aussi sur les actions qu'on allait mener avec les enfants, comment les mener. Là aussi, ouais, y a eu un gros travail sur Bellevue. L'idée, c'était pas d'imposer le projet, de dire en fait, on arrive avec notre idée, notre façon de faire, et ça sera comme ça, mais vraiment de co-construire avec celles et ceux qui connaissent le mieux le quartier, en fait, en fin de compte. C'est ça, Anna ?
C'est ça.
Comment est-ce qu'ils ont justement participé à, par exemple, à la programmation du festival ?
Eh ben, on les a rencontrés dans le cadre du conseil participatif de Bellevue et on leur a proposé plein d'artistes qui ont été réunis, enfin qui ont été trouvés en tout cas par Vicky, qui est notre chargée de programmation. Et on a pu faire une présentation aux habitants et puis discuter après de ce qui leur plaisait le plus, en tout cas dans l'ambiance, dans l'esthétique. Et ensuite, on a bloqué certains artistes avec les habitants et habitantes qui étaient venus à cette réunion. Après, il a pu y avoir des changements en fonction des disponibilités des artistes, mais globalement, on a essayé de rester dans l'esthétique qui leur plaisait le plus.
On va continuer notre interview avec Sébastien et Anna, mais tout de suite, c'est le moment de la pause musicale.
Bueno, pues. La cosa sería un poquito así, ¿no? Entre lo caótico y el genio. Lucha ahora, lucha por
C'était Lucie Antunes avec Lujadora sur Radio U. Vous écoutez toujours C'est vous qui le dites et nous sommes toujours avec Sébastien et Anna qui nous présentent le festival Quartier. Vous avez aussi des partenaires qui seront présents pour la restauration et les buvettes qui seront ces partenaires.
Alors pour la buvette, ça sera le passage donc, qui est de la maison queer et féministe à Brest. Donc ils vont proposer différentes boissons, pas mal de jus. Je précise qu'il n'y aura pas d'alcool. Donc voilà, ça va être différents jus et tout ce qui, voilà, la somme récoltée en fait leur reviendra. Et donc ça permettra de mener différentes missions qu'ils peuvent faire au quotidien. Pour ça, bon, je vous invite à checker, ils ont tout ce qu'il faut sur Instagram et autres, sur les réseaux. On est très très contents de les avoir comme partenaires. On avait déjà pu bosser avec eux sur d'autres projets dans le cadre de nos études, et donc c'est toujours cool de les avoir avec nous. Surtout que ce qu'ils font et ce qu'elles font, c'est vachement top. Donc vraiment c'est top. Voilà, c'est trop bien.
Et on a aussi un partenaire pour la restauration, qui est le patronage laïque du Bergotte, en fait, parce que c'est aussi une association. Donc c'est pareil, tous les fonds récoltés via la restauration serviront à financer des projets qu'ils mènent avec les enfants. Donc, par exemple, récemment, ils sont partis à Paris, je crois, avec les enfants, en faisant de l'autofinancement, comme ça.
Ce qui fait que, je fais juste la parenthèse, on n'a pas d'argent nous qui rentre directement pour nous. C'est important aussi de le préciser, ça reste un projet donc, dans le cadre de nos études. Donc le peu d'argent qu'on peut recueillir revient sur d'autres associations. Et en plus, l'événement est entièrement gratuit. Donc vraiment sur ça, n'hésitez pas à venir. Et en plus, quand vous avez dépensé de l'argent, ça sera pour des bonnes causes. Donc n'hésitez pas.
Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la question d'accessibilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Ouais, le site est entièrement accessible PMR, donc pour les mobilités réduites. Et on a aussi la chance d'avoir la Handybox qui est prêtée par la mairie. Donc la Handybox, c'est un kit que met à disposition la mairie avec tout ce qu'il faut pour accueillir tout type de handicap. Il y aura des fauteuils roulants sur place, il y aura des boucles magnétiques, des gilets, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc on est vraiment très contents de ce partenariat aussi avec la mairie.
Et on a aussi prévu tout ce qui est bouchons d'oreilles aussi pour les enfants. Alors voilà, s'il y en a qui veulent ramener des bouchons, des casques, hein, c'est toujours bien hein, pour les enfants, justement, c'est de la prévention. Mais on en aura, voilà, ça fait aussi partie de l'accessibilité.
Parmi les artistes qui seront présents et qui performeront pendant le festival, est-ce que ce sont essentiellement des personnes issues de Bellevue ou alors ils viennent aussi d'ailleurs ?
Alors, c'est pas essentiellement de Bellevue, mais par contre, on a vraiment essayé de faire que ce soit en tout cas sur Brest ou alors Finistère, un peu plus large. Le premier artiste, il me semble que c'est Finistère. On a Stéren Alix, elle est de Brest aussi. La fanfare Funky Dirty Chicken, ils sont aussi de Brest. Donc on a essayé en tout cas de mettre dans les critères le local. Et puis après, on a fait aussi en fonction des disponibilités des artistes pour cette programmation.
Sachant que là aussi, c'était une volonté qu'on fasse local. À la fois pour mettre en avant des artistes donc féminines comme masculines hein, d'ailleurs du territoire, mais aussi pour des questions écologiques, c'est-à-dire que au bout d'un moment c'est aussi ça le but de notre master, c'est d'avoir une réflexion sur comment on met en place des projets, et aujourd'hui faire venir une fanfare d'Ardèche alors qu'on en a une qui est excellente sur Brest, il n'y a pas forcément d'utilité. Donc on a la chance sur Brest, dans le Finistère et en Bretagne d'avoir un vivier artistique de qualité, bon bah autant l'utiliser un maximum, et en plus écologiquement c'est génial, donc là ça cochait toutes les cases pour notre projet.
Est-ce qu'il y a peut-être déjà d'autres éditions de ce festival qui seraient potentiellement envisagées, du moins si c'est pas déjà organisé?
Et ben comme c'est un projet dans le cadre de nos études, malheureusement c'est vraiment un one shot, donc c'est notre occasion unique de faire ce festival. Mais j'en profite pour faire un peu de la pub pour les copains, parce que du coup, y a plusieurs groupes dans le master qui organisent comme ça des événements. Et donc, on a un festival qui s'appelle Hydrocution, qui sera tourné plutôt autour de la danse et du thème de l'eau, et qui se passera plutôt en janvier. Ils ont aussi un compte Insta. Et on a le projet Flow, qui en ce moment est en train de se lancer aussi. Donc ils organisent une première partie à la Carène et cette première partie de concert, ce sera les gagnants d'un tremplin. Donc il y a les inscriptions en ce moment du tremplin qui sont ouvertes. Et donc c'est Flo sur Insta, F-L-O-W.
Et justement, vous, en tant qu'étudiant de master qui ont organisé cet événement, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous avez appris à travers l'organisation de ce festival ?
Professionnellement, c'est une vraie plus-value. Faut être honnête, c'est l'objectif aussi de ce master, hein, c'est de voir à la fois des choses très théoriques par rapport aux politiques culturelles, qui est aussi, faut l'admettre, un sujet d'actualité quand on voit les annonces qui ont été faites récemment par le gouvernement. Il y a un vrai sujet sur la culture aujourd'hui, sur le budget qu'on y met, et quels moyens on y met, comment on l'aimait et pour qui on l'aimait, c'est des vraies questions. Donc nous, nos enseignants sont là pour nous donner à la fois des moyens théoriques pour répondre à ces problématiques. Et puis là, on peut le voir sur le projet Tutoré, on le constate de manière pratique, palpable, j'ai envie de dire quasiment. C'est de se dire, maintenant qu'on a vu la théorie, comment on fait un budget, à qui on demande de l'argent, parce qu'il faut des subventions, donc on remercie encore nos partenaires. Donc la ville de Brest et le projet Élan, l'université qui nous a soutenus, la fondation UBO, enfin voilà, on a eu pas mal de soutien, on a eu la FADA, il y a pas mal de gens qui nous soutiennent. Mais là encore, ça pose aussi la question, je le redis parce que je pense que c'est aussi important aujourd'hui, de dire aujourd'hui ces partenaires peuvent nous aider. Peut-être que demain, après-demain, pour ceux qui devront faire des projets tutorés à notre place, peut-être qu'ils n'auront pas cette chance. Et donc c'est aussi important de regarder que les politiques culturelles et qu'un festival comme ça dans Bellevue, accessible à toutes et tous, avec des actions pour les enfants, là c'est des subventions, c'est de l'argent public, c'est-à-dire que les élus ou les établissements publics nous font confiance, c'est pas anodin, donc on les remercie vraiment, mais ça pose question pour la suite, vraiment. Et c'est ça aussi l'objectif du master, c'est de trouver parfois des solutions quand il y a des choses qui peuvent être un peu compliquées, surtout au sommet de l'État.
Merci beaucoup Sébastien et Anna d'être venus avec nous pour nous présenter le festival Quartier qui aura lieu le 31 octobre au patronage laïque de Bellevue.
Et si on peut juste rajouter, on est toujours à la recherche de bénévoles. On a toujours besoin d'aide. Donc si vous souhaitez filer un coup de main, ça peut aller de... Je sais pas, t'as des idées Anna, qu'est-ce qu'on peut faire si on est bénévole, tiens ?
Eh ben, y a plusieurs postes, hein. Y a l'accueil billetterie, y a aussi, on aura aussi besoin d'aide au niveau du catering pour les artistes. Au niveau de l'accueil, Handibox, donc voilà, il y a pas mal de tâches et il y a plein d'infos sur Instagram et Facebook. Donc à chaque fois, ça s'appelle juste Festival Quartier sur Insta et Facebook.
Donc n'hésitez pas à nous contacter.
Merci encore à vous deux. Quant à nous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission après la pause musicale.
Merci à vous.
Avant je m'allongeais sur tes mots, je m'enroulais dedans bien au chaud. J'avais une faim de loup de tous tes propos, ça me colle à la peau. J'amassais tes compliments et comme des perles j'ai porté fièrement à mon cou. Dis-moi que je suis belle, dis-moi encore combien je méritais d'atteindre les sommets. J'ai resté pendu à tes lèvres.
Oh,
la laisse. Je me souviens du futur et je crois bien. Là, il attend entre mes mains.
C'était Beau Parleur de Solar Project dans C'est vous qui le dites sur Radio U. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission, nous allons écouter un reportage réalisé par Wendy sur l'exposition photo Brest jour et nuit. C'est une exposition qui a été organisée par Anne Bescon, médiatrice culturelle à la MPT. Elle permet de mêler le style de deux photographes qui ne s'étaient jamais rencontrés avant. Justine-Marie Thomas, une habituée des photos de nuit qui utilise les lumières artificielles pour mettre en valeur la ville de Brest, et Lenja, une habituée des photos prises dans la journée ou dans la soirée pour capter les lumières naturelles du soleil.
Donc là, j'étais allée avec des amis au bar et en sortant, on part tous les deux avec mon copain et je sors mon appareil. Donc lui, il avait juste qu'une envie, c'était de rentrer, pas moi. Et on a croisé du coup ce monsieur qui traverse donc la rue. Bah là, je dégaine l'appareil photo, je le prends, je vois que c'est flou. Du coup, j'ai essayé un peu de pas de le courser non plus le monsieur, mais un peu de le suivre pour essayer d'en avoir une autre bonne. Mais au final, c'était la seule qui était chouette parce qu'il y a le feu rouge en fait au fond qui est juste derrière le parapluie. Et avec la brume, en fait, ça a fait genre psh, comme ça. Du coup, les autres qui sont nettes, bah non, elles sont pas bonnes. Et c'est celle-là qui est un peu floue, du coup, qui est bonne, quoi. Et à la base, j'habite à Crozon et je suis venue faire mes études à Brest en 2011, aux Beaux-Arts de Brest. Et après mon cursus, je suis partie à Bordeaux. Après, je suis allée à Guingamp et finalement, je suis revenue à Brest. Le fait d'être partie, je fais juste une année à Bordeaux, ça m'a fait revenir et voir la ville autrement aussi. Parce que finalement, il y a plein de choses où on a vraiment beaucoup de chance ici. Et finalement, je préfère largement Brest à Bordeaux.
Le deuxième, c'est le cinéma.
Ah oui, d'accord.
T'avais déjà
fait ça. Oui. Ah, c'est bien.
Quand t'es en bord de mer et t'as pas vu qu'il y avait un dauphin sur ta photo. Hein. Ça m'a déjà arrivé une fois, je suis là. Comment c'est, il y avait le dauphin sur ce spot.
Moi, j'ai travaillé il y a 2 ans. Avec Anne, qui gère un peu le MPT. Et du coup, quand j'ai vu son annonce sur Instagram pour dire « cherche un peu les gens pour faire une exposition », bah moi, je dis « je suis bien volontaire » parce que ça fait longtemps que je fais la photo, mais j'avais jamais fait une exposition. Du coup, je me dis « ça sera l'occasion de tester un peu le milieu ». Et moi, c'est un peu ce côté que, avant que je sois venue ici, tout le monde m'a dit « Brest, c'est moche ». Je voulais aller un peu aller contre cet instinct que tout le monde a quand on dit Brest. Et du coup, j'ai cherché un peu à mettre ça en scène et montre Brest un peu de notre côté et je suis un peu tombée amoureuse de Brest quand même.
Et du coup, vous étiez déjà vu avec Lilian?
Non, du tout. En fait, on se connaissait pas vraiment parce que c'était que via les réseaux sociaux. Donc en gros, je connaissais ses photos, okay. Je connaissais les miennes,
mais pas.
Moi, j'organise des expositions depuis 1 an maintenant à la Maison pour tous. Je suis tout le temps à la recherche de jeunes artistes ou de personnes qui veulent montrer leur travail à la MPT et j'essaye de privilégier vraiment des jeunes artistes émergents et qui viennent de Brest. Et Lénia et Justine, je les suivais déjà sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de les contacter pour faire une exposition. C'est aussi mon but en arrivant ici, c'est que je voulais faire des expositions qui changent un petit peu de la peinture, de ce qu'on a l'habitude de voir souvent dans les structures de quartier et d'apporter un petit peu de fraîcheur dans tout ça. J'aimais bien le contraste des photos de Lénia qui sont souvent basées quand même sur le soleil et comment elle utilise le soleil dans sa photographie, alors que Justine c'est quasiment que des photos de nuit et là elle utilise des lumières artificielles pour mettre en lumière justement les sujets qu'elle utilise dans ses photos, donc c'était un contraste un peu rigolo quoi.
Alors en fait, on est venu à l'expo déjà parce que c'est une amie à nous qui était en licence de géographie avec nous. Donc forcément, ça faisait déjà quelques années qu'on voyait ses photos. Donc on savait qu'elle faisait des jolies photos. Et puis bon, forcément, on est là pour la soutenir. Et puis effectivement, quand on voit les photos, on n'est pas déçus. Moi, je suis originaire de Brest. Justement, c'est marrant de voir, de redécouvrir un peu certains lieux comme ça. Même si je connais bien la ville, mais bon, là, forcément, ça permet d'avoir un regard un peu différent. La photo 8, où on aperçoit la digue en fait, de la marina à Brest. On voit une personne qui est assise de dos face au coucher de soleil. Alors déjà, je l'ai repérée parce qu'on était ensemble au moment de cette balade. Et puis, donc c'est là qu'elle avait pris cette photo à ce moment-là. Et puis, c'est marrant parce que la digue à Brest, c'est un endroit où c'est assez vivant, peu importe l'heure, en fait. Et là, c'est intéressant de voir que même une fois arrivé le soir, on voit des gens qui pêchent, qui lisent, qui se promènent. C'est un peu un lieu de vie, quoi. Et au coucher de soleil, ça met un peu en valeur tous ces moments-là. Donc, cette photo-là serait ma favorite. Ouais.
Je trouve que c'est bon,
Sauf là, j'aurais pu, vu que j'ai un peu le temps. Mais souvent, je prends un peu la photo de quelqu'un dans la rue, ou comme ça, je trouve tout faire un peu. Je dois faire des réglages et tout. C'est
la spontanéité.
Voilà, ouais, ça marche.
Ouais, c'est un peu vraiment chercher ce truc, ou un peu le charme caché aussi. C'est vrai, un jour gris. C'est un peu du mal, à voir à Brest que oui, il y a des moments où aussi des endroits, que par exemple la digue, il y a beaucoup de gens qui sont sur le port, il y a beaucoup de gens qui vont jamais, qui oublient un peu quand même que c'est vraiment un peu le seul accès à la mer qu'on a à Brest, et il y a beaucoup de gens qui ne le vont pas aussi. Et c'est aussi ça, un peu montrer d'autres façons de Brest, montrer des endroits, montrer des émotions. Comme aussi au début, ce n'était pas du tout ce que je cherchais faire, mais... Ah bon, c'est venu un peu aussi avec, la réaction des gens à mon compte que j'ai vu. Ah oui, quand même, à Brest, il y a quelque chose à creuser. Il n'y avait pas beaucoup de photographes au début. Et du coup, c'est un peu aussi les gens étaient là. Ah oui, c'est ça, Brest aussi. Ça peut rendre si bien en photo. Oui.
Ouais, il y a des forts contrastes.
Ouais, c'est trop beau. J'adore. Et du coup, toi, t'as fait
Moi, j'ai fait des beaux-arts. C'est un moment maintenant, mais du coup, c'était plutôt sur les photos.
Okay.
Et après, j'avais arrêté pendant un temps parce que cumuler un emploi et la passion, des fois, ça ne matche pas. Et du coup, là, maintenant, c'est bon, c'est posé. Je peux reprendre.
C'est vrai que c'est assez réputé pour être carré, béton, tout ça. Mais au final, c'est pas mal parce que les bâtiments prennent bien la lumière. Parce que si on compare à une ville comme Brest avec des murs en pierre, de la charpente en bois et tout ça, c'est bien plus compliqué à photographier. Alors qu'à Brest, on va avoir des lignes, ça va être intéressant au niveau des perspectives, tout ça. Et de jour comme de nuit, franchement, on en prend plein les mirettes. En vrai, un crachin, ça passe crème. Par contre, ouais, quand il y a des pluies diluviennes, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, c'est chouette d'y aller avant, quand ça commence à s'assombrir avec des beaux nuages. Ou alors après, et là, tu as la route qui est mouillée, il y a plein de reflets, enfin, c'est super beau. Et du coup, ça apporte autre chose encore à Brest. Brest mouillée, c'est joli.
Je trouve aussi, souvent ici, c'est un peu le... Souvent, il y a aussi un entre-deux. Il y a un moment où il pleut. Et 5 minutes plus tard, il y a le soleil qui sort. Et ça aussi, ça peut être très beau. La pluie, tant que vraiment le changement dans 5 minutes, c'est un peu l'instant. À l'instant, ça change.
On file, les
gars. Merci beaucoup d'être venus.
Merci à toi de participer à ça.
Du coup, on revient à la prochaine. Prochain
vernissage.
On attend la date.
Milieu artistique qui vient de se lancer, je pense que c'est un sujet qui va revenir assez régulièrement quand tu passes le cap de
te lancer, dépendre de ton art.
C'était cool de voir différentes photos avec des lumières différentes. Bah, je trouve que ça se donne un autre charme et une atmosphère assez différente de la journée. Et c'est, je trouve bien aussi d'avoir les photos parce qu'on voit Brest sous ces couleurs-là. Mais voir des photos imprimées des endroits qu'on connaît, ça donne tout de suite un charme et une importance aux photos. Mais surtout que maintenant, quand je vais revoir Brest avec ses couleurs, je vais aussi me référer à ces photos-là. Je vais peut-être avoir un autre regard sur Brest. Ouais.
Elle me disait qu'il y avait un spot pas loin. Elle m'a dit qu'il faut la Lille Ronde à côté. Et apparemment, il y a une super vue sur la rade. Moi, ce que j'aime bien, c'est la solitude qu'on a la nuit. En fait, le jour, selon comment on est, sur qui on tombe, en fait, c'est assez compliqué de faire tranquillement de la photo dans la rue. Moi, je suis moins à l'aise quand il y a de la foule, parce que finalement, d'un coup, il y a beaucoup de sujets. Et c'est dur d'avoir un sujet qui se détache. Il y a plus de monde dans la rue, des choses comme ça. Après, c'est intéressant aussi, parce que finalement, en trouvant le bon spot et tout ça, il n'y a qu'à attendre la personne. Mais la nuit, je sais pas, il y a ce truc où finalement, s'il y a la personne, bah, il y a un truc de rareté où on se dit, bah, vraiment là, pour qu'on se soit rencontrés à ce moment-là, c'est vraiment tout s'est aligné et je sais pas, il y a un plaisir un peu plus fort. Puis vraiment, ce côté où, moi, je suis une vraie fouine, la nuit, au moins, je peux me faufiler dans des endroits ou des trucs comme ça, personne ne voit. Voilà, du coup, souvent, je suis accompagnée parce que je vais pas aux bons endroits. Et du coup, on me dit non, là, c'est la zone où faut pas dépasser.
Ça fait partie de la photo, hein, tu te perds.
Brest, des fois, je suis étonnée à quel point c'est vide la nuit. Il n'y a personne dans les rues, surtout quand il pleut. Des fois, c'est un peu, t'as l'impression d'être la seule personne au monde. C'est vrai qu'on n'a pas du tout ça la journée. Et du coup, ça a vraiment des côtés très différents. J'aurais pas dire si j'ai une préférence. Au début, c'était définitivement plutôt la journée que je faisais la photo pour trouver un peu vraiment ces lumières qui me marquent un peu. Finalement, c'est les deux qui ont vraiment leur charme très, très différent. C'est qu'est-ce qu'on voit aussi un peu dans l'expo où il y a vraiment un mélange entre pas les photos la nuit et les photos de la journée.
Oui, Brest, on dit souvent que c'est une ville qui est assez grise et quand on voit les photos, bah, pas du tout. Enfin, c'est une ville qui est pleine de couleurs au coucher de soleil. C'est des photos qui sont assez chouettes et assez différentes de ce que les gens m'avaient décrit de Brest. Et... bon, c'est une très jolie ville, surtout sur ces photos-là, c'est chouette. Moi j'aime bien la photo numéro 3, c'est une photo qui est prise à Recouvrance, où on voit les grues derrière et on arrive sur le sentier, la route de la Corniche, voilà. Et elle est super belle cette photo. Les grues, ça représente bien Brest et le coucher de soleil, c'est pas mal.
La vue que t'as de l'autre parc, là, de la forêt du Durbras, c'est un peu la même.
Mais il y a toujours des réactions assez vives. Soit les gens, ils sont complètement convaincus déjà un peu, donc ils vont être vraiment fans, ils vont être en mode « Ah, incroyable, je pensais pas pouvoir voir Brest comme ça et je le vois ». Et d'autres vraiment sont vraiment butés, bornés, à dire Brest c'est moche et à pas en démordre. Du coup, peu importe la vision qu'on peut leur offrir, là-dessus il y a encore pas mal de blocages.
Et sur une photo un peu plus, on impose un peu notre vue sur les gens qui regardent notre photo. Et ça, je trouve aussi, ça peut aussi être que les gens, ça ne les plaît pas. Et je trouve aussi c'est ces moments où tu captures un moment qui est unique, qui est le quotidien de quelqu'un. Mais ça peut aussi du coup devenir quelque chose... joli.
Du coup, une fois que tu te découvres, que tu te rends compte, que tu réalises que c'est beau, t'as vraiment envie que les autres le comprennent, le voient aussi, et qu'ils aient un peu aussi ces étoiles dans les yeux comme nous on a finalement quand on se promène et qu'on voit. C'est beau quoi, enfin, juste faut lever un peu les yeux et ça, c'est assez chouette.
Cette exposition que l'on peut retrouver à la Maison pour tous de Guelmer jusqu'au 15 novembre permet donc de mettre en avant les lumières naturelles ou artificielles qui donnent de nouvelles couleurs à une ville que l'on qualifie trop souvent de grise. Vous pouvez retrouver les autres actualités de la Maison pour tous de Guelmer sur leur site internet. Pour ce qui est des photos de Justine et Lénia, vous pouvez en retrouver certaines et beaucoup d'autres sur leur page Instagram @justinemarie_thomas et @lenja_photo. Juste après notre pause musicale, on se retrouve avec une interview de Flavia Coelho.
Ah!
C'était Johnny Carwash avec Haha sur Radio U. On écoute C'est vous qui lites et c'est l'heure d'écouter une interview de Flavia Coelho, réalisée par Anton. Flavia Coelho, chanteuse brésilienne actuellement en tournée et qui sera à Brest le 8 novembre à la Carène.
Alors nous recevons aujourd'hui par téléphone une invitée assez particulière. C'est une artiste chanteuse mondialement connue, née au Brésil, qui vit aujourd'hui en France. Elle a sorti en ce printemps 2024 son cinquième album, Jinga. Bonjour Flavia Coelho.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en tournée. On vous retrouvera le vendredi 8 novembre à la Carène à Brest. Le jour d'avant, vous serez à Rennes. Donc première question, comment est-ce que l'on se sent lorsqu'on est en tournée et qu'on enchaîne concert sur concert ?
Alors j'ai toujours un esprit de gratitude envers ça, car voilà, comme vous venez de dire, je viens de sortir mon cinquième album. Mmh. J'en ai fait plein de tournées, plus de 1000 concerts, des tournées mondiales. Et chaque fois, le public est au rendez-vous à mes concerts. Donc voilà, c'est que de la gratitude vraiment de pouvoir vivre de la musique depuis toutes ces années et avoir un public si fidèle.
Mmh. Vous avez sorti donc le 31 mai votre nouvel album, Jinga. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Jinga ?
Alors, Jinga, littéralement, en français littéraire, ça veut dire « jeu des jambes ». Mais Jinga, ça veut dire plus que ça. Jinga est d'abord une manière de vivre au Brésil. Quand on dit de quelqu'un qu'il y a de la Jinga, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait bouger, qui sait bouger les lignes, qui sait se débrouiller. Et Jinga est notamment un des mouvements de la capoeira, cet art martial venu de l'Afrique et qui s'installait au Brésil. Et qui est aussi connu pour être une espèce de danse. C'est en fait une lutte maquillée par la danse. Et c'est un petit peu ce que j'utilise dans les textes de Jinga. Voilà, il y a toujours cette manière de... On transcende la douleur par la danse, par la musique.
Et en fait, dans votre livret de votre disque, on va revenir dessus un peu plus tard aussi, mais il y a une lettre manuscrite assez personnelle que vous signez et que vous adressez à votre public. Pourquoi avoir fait cela ? Pourquoi ce choix ?
Parce que Jinga est partie complètement de la page blanche. J'avais déjà écrit beaucoup de morceaux, beaucoup de collaborations, 4 albums, et j'étais arrivée à un moment où je savais plus exactement comment j'allais écrire cet album, parce que il faut quand même reconnaître que le monde va très mal. Et que j'avais abordé beaucoup de sujets qui étaient très importants, notamment l'actualité politique de mon pays lors de mon précédent album. Cette fois-ci, je cherchais quelque chose d'un peu plus légère. J'avais besoin de revenir dans quelque chose de plus introspectif et ne pas forcément être dans le pur jeu de l'actu. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de revenir dans mon adolescence. La période de mon adolescence, lorsque j'avais entre 13 et 18 ans, que c'est là où, à l'âge de 14 ans, je décide de devenir chanteuse.
Oui.
Et que c'est la décision que j'ai prise et qui a resté dans ma vie. Cette année, ça fait 30 ans que je vis de la musique. Et ce fut notamment voilà, la période des premières émois, des premières sensations de mon entrée dans la vie adulte, parce qu'elle a commencé assez tôt quand même.
Ouais.
Et c'était important pour moi de récupérer justement le geste de l'écriture du manuscrit, parce que j'en ai vécu quand même dans ces deux écoles, la transition entre le monde d'avant et le monde d'après, le monde numérique, lequel nous vivons aujourd'hui. Donc j'ai fait partie de tous ces changements de paradigme. Donc pour moi, c'était important d'écrire cette lettre, parce que c'est vraiment une envie, c'est un appel que j'ai fait aux auditeurs aussi par rapport aux chansons dans l'album, parce que j'ai décidé de faire des chansons, des pièces musicales un peu plus longues, dans la longueur, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
Justement, vous disiez au début de votre réponse, on est dans un monde qui ne va pas forcément bien, et vous avez justement fait le choix avec des titres plutôt longs. Il y a donc 10 titres sur l'album, c'est des titres qui durent environ 4 minutes, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on perd en fait de plus en plus. Et en fait, justement, dans cet album, on ressent aussi une atmosphère aussi très relaxante, presque méditative, notamment par exemple, dans les clips de vidéos, je le prononce peut-être mal, Dos Manias et Bira, où vous apparaissez dans des postures de yoga ou de réflexion décontractée. Justement, est-ce que vous pouvez aussi expliquer cette volonté de proposer une ambiance un peu apaisant, chill dans cet album?
Je tiens à vous dire que votre prononciation, elle est superbe.
Merci beaucoup.
Jinga et tout ça, c'est super. Donc oui, c'est un envie, de, c'est un envie de, d'essayer de poser un peu les choses, en effet.
Okay.
Le disque Jinga, avec mon producteur Victor Vague, nous avons pensé ce disque vraiment comme l'écriture d'un roman. C'est-à-dire, j'en ai fait d'abord un plan. Mm-hmm. J'ai passé un an et demi à faire des recherches musicales, d'écriture, de lecture pour arriver à ce disque. Depuis longtemps, je n'ai remarqué, je n'ai même fait par le passé, qu'on voit que voilà, le monde va très vite, les titres se rétrécissent, les titres des morceaux, les pièces mm-hmm. musicales se rétrécissent. Et même pour ça, nous n'avons plus le temps. Mm-hmm. Et c'est là où je me suis dit, viens, j'ai envie de faire un disque où, en effet, les titres, ils font entre 4, un peu plus que 3 minutes 30, comme se fait aujourd'hui.
Oui.
Mais le disque, c'est un fil, en fait. Mm-hmm. Ça veut dire que les gens, ils vont commencer à l'écouter du début à la fin. Mm-hmm. Ils vont se faire piéger par le rythme. Ils vont se faire piéger par cette envie de bouger sans même se rendre compte. J'invite vraiment l'auditeur à faire une réflexion, à redécouvrir des chansons, à prendre son temps pour écouter la moindre introduction. J'en ai même remis au goût du jour le troisième couplet qui était complètement évincé de tous les titres, d'une bonne partie des titres qu'on écoute aujourd'hui. Pareil pour le pont, vous savez, ce moment où on change les accords, où il y a une ouverture. Et j'en ai fait aussi beaucoup de recherches auprès de la musique classique parce que je me suis demandé comment est-ce possible que lors de la musique pop, de toutes celles qu'on écoute aujourd'hui à la radio, les morceaux se sont rétrécis, alors que les grands compositeurs de la musique classique, je parle de Brahms, de Chopin, de Mozart, ils sont encore jusqu'à aujourd'hui très écoutés, alors qu'ils font des pièces de 8 minutes, de 9 minutes. Je me dis, mais comment est-ce possible? Il faudrait qu'on amène tout ça au goût du jour. Il faut que les gens ils aient à nouveau au moins ce peu de temps pour écouter de la musique et pour l'apprécier à nouveau, sans vraiment passer d'une chose à l'autre. Parce qu'en effet, l'offre, elle est énorme et c'est merveilleux d'avoir autant d'artistes. Mais finalement, aujourd'hui, les artistes, ils sont écoutés, voire à peine entendus, 15 secondes, 20 secondes, le temps d'une page de pub ou d'une trend sur TikTok. Je trouve ça merveilleux que les artistes peuvent aussi éclore par ces biais-là. Mais parfois, toute une année de travail se perd en seulement 10 secondes.
Et donc, vous l'avez dit, cet album, d'une certaine manière, retrace aussi votre parcours de jeune fille, de jeune adolescente. Il y a justement une phrase que vous auriez entendue et qui aurait été très importante, même centrale en fait dans l'écriture de votre album, qui est « Nous vivons nos 20 premières années, puis les 20 années suivantes servent à comprendre les 20 premières ».
Eureka, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est exactement ça ce qui s'est passé. Je cherchais où est-ce qu'il allait mon écriture et quand j'entends cette phrase, tout de suite je pensais à l'adolescence, surtout... je suis à ce moment-là, en fait. Aujourd'hui, je suis une femme de 44 ans, accomplie. J'ai vécu 30 ans de musique. Je vivrai encore 30 ans de musique, j'espère bien. Mais pour moi, le parcours n'est pas fini. Pour moi, ce disque n'est pas non plus le disque de la maturité, j'espère bien. Pour moi, le fruit, quand il est trop mûr, il meurt, c'est fini. Donc, ce n'est pas du tout ça. Moi, ce que je voulais surtout, c'est de revivre ces émotions-là pour pouvoir écrire des choses qui parlent à un maximum de gens, parce que il y a quand même une bonne partie de mon audience qui a déjà vécu l'adolescence, et ceux qui sont plus petits vont encore la vivre, vont peut-être découvrir des choses qui l'actualité n'y a plus, comme par exemple, aujourd'hui le vinyle est revenu au goût du jour, mais le vinyle fait partie de mon enfance.
Et donc, est-ce que vous savez à quoi vont servir les 20 années prochaines? Est-ce que ça vous pouvez le dire, déjà?
Waouh. Ben, j'espère qu'au niveau climatique, on s'en sortira un peu mieux. Parce que je pense que les enjeux, j'ai vécu dans un pays en fin de dictature. J'ai vécu les fins de plusieurs dictatures. J'ai vécu un début de fin des guerres froides. La menace des bombes, parce qu'avant, on vivait dans la menace du nucléaire. Et la menace, elle venait toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, la menace, elle vient de nous-mêmes parce que sommes nous qui sommes en train de détruire la planète. Donc, voilà, c'est un jeu aussi des fonds du monde, il a changé.
Justement, en vous écoutant, on voit aussi à quel point votre musique, elle est politique. Votre dernier album, par exemple, DNA, revient par exemple sur des questions de métissage, de l'acceptation de soi. Vous avez aussi été affecté par la situation politique lors de l'arrivée au pouvoir de l'ex-président Bolsonaro. D'où vous vient en fait cet intérêt et est-ce que aussi justement cet album, cette nouvel album Jinga, prolonge votre sensibilité pour des sujets politiques ?
Ce sont quand même des disques assez différents parce que comme vous venez de dire, voilà, pour moi c'est une hécatombe quand l'extrême droite est arrivée à mon pays. Et j'avais vraiment ce besoin de dire à ce moment précis ce qui était en train d'arriver, quoi. Comme un peintre qui peint, voilà, qui peignait les grands maîtres, qui peignait les guerres au moment où ça existait. Et voilà, ça est resté pour les générations suivantes. Pour moi, c'est un peu ça. J'avais besoin d'écrire ça et de dire les choses telles les mots m'évoquaient ça. Alors avec Jinga, quand je parle qu'il est beaucoup plus léger dans ça, c'est parce que quand j'évoque l'adolescence, bien évidemment, mes veines d'engagement et politique, je ne savais pas encore mettre le mot dans tout ça. Mais en même temps, je n'ai pas une envie à chaque fois de faire un disque politique, quoi qu'il arrive. En fait, cet engagement-là, il vient tout simplement du fait que je suis née dans un pays où, quand on grandit dans des quartiers difficiles, qu'on voit la violence, qu'on voit le racisme, les préjugés divers et variés, naturellement, on est engagé. Bien sûr qu'on est engagé contre la faim quand on a vécu, quand on a vu des gens qui ont faim, qui n'ont pas de logement, etc., etc. Donc, je parle des choses qui j'ai vu, qui j'ai grandi avec et qui existe encore. C'est pas parce que je me suis embourgeoisée aujourd'hui et je dis ça vraiment avec une certaine conscience parce que aujourd'hui je vis dans des beaux quartiers, je vis à Montreuil, j'ai en sud de Paris, je fais des tournées, je travaille avec beaucoup de gens, mais je sais aussi ce qui n'est pas avoir tout ça. Donc je trouve qu'il est important d'en parler encore parce qu'il y a encore beaucoup de gens dans cette situation-là, mais Jinga, par exemple, il n'est pas forcément la continuité de DNA, parce que DNA, ça parlait vraiment de l'actualité, alors que Jinga, c'est vraiment un disque plus dans la veine de comprendre ce moment voilà, où on est adolescent, on grandit et on a cette prise de conscience.
Et justement, pour revenir du coup à votre musique, depuis petite, en fait, la musique, elle vous suit de partout, en fait, tout le temps. Grâce par exemple à votre père qui lui était très sensible à la musique, vous parlez même de vos voisins, la musique que vous entendiez depuis chez vos voisins qui a été source d'inspiration pour vous, on sent que vous puisez votre inspiration là où vous entendiez de la musique et là où vous entendez encore de la musique. Est-ce que Jinga c'est ça aussi, c'est essayer de mélanger différents styles, différentes cultures, même époques musicales?
Complètement. Je me sens comme une éponge en fait qui a les antennes bien ouvertes. Les éponges n'ont pas des antennes, mais bon, je vais faire un mélange des deux. voilà, je pense, je suis au service de la musique. Mon art, c'est être à l'écoute et avoir toujours mes cinq sens bien éveillés pour ne rien rater. Et surtout, je me suis jamais mis des limites par rapport à la création. Je pense qu'au fond, être artiste, c'est ça, c'est de faire des choses là où les gens n'attendent pas forcément, où on n'est même pas un besoin, en fait. Je crois que c'est ça, c'est ma manière de voir l'art, en fait. C'est de créer un besoin là où les gens ils pensent que ce n'est pas nécessaire.
Mais donc, comment vous le définiriez votre style musical? Est-ce qu'il y a un style de musique qui est propre à Flavia Coelho?
Je ne suis jamais rentrée dans de véritables cases. Je suis plutôt celle qui casse les murs. Mais j'ai créé un style musical que j'appelle le bossa muffine, qui est un mélange de... Quand on dit bossa, ça évoque tout de suite Brésil, musique traditionnelle brésilienne, voilà la nostalgie. Et quand on dit muffine, c'est mélange, métissage, voilà, c'est tout ce que cette musique d'aujourd'hui, la pop, le reggae, le raga, le hip-hop... Les musiques des continents africains, de l'Amérique latine, donc tradition plus modernité égale à bossa muffine.
C'est clair, depuis petite, vous écoutez de la musique, et en fait depuis toujours, est-ce que c'est depuis toujours que vous rêviez de devenir chanteuse? Et on dirait que c'est comme si vous n'aviez jamais vraiment douté, alors que justement pourtant vous étiez destiné à un futur peut-être bien différent de celui d'aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous avez grandi dans un Brésil pauvre qui sortait par ailleurs d'une dictature militaire. Vous avez grandi dans une société assez patriarcale et pourtant, aujourd'hui, vous êtes chanteuse et vous êtes en tournée dans toute la France. En fait, d'où elle vous vient aussi cette détermination et cette résilience?
Quand j'étais petite, je ne rêvais pas vraiment de devenir chanteuse. Je rêvais surtout de rencontres, de voyages, parce que j'ai grandi dans une famille assez nomade. Et quand nous nous sommes installés pour la première fois, tout ça, ça m'avait manqué. Et donc, il fallait que je trouve un métier qui pouvait m'amener partout dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'à l'âge de 14 ans, je réponds dans l'annonce d'un casting qui cherchait une chanteuse. J'ai chanté déjà, en effet, à la maison. Je faisais des petites présentations artistiques parce que ma mère, elle aimait bien ça. Et ma mère était déjà coiffeuse, maquilleuse des artistes depuis moins d'années. Donc, elle m'a amenée souvent dans les cabarets, etc. J'étais entourée. Donc, sûrement, inconsciemment, il y avait une volonté, mais ce n'était pas quelque chose que je disais haut et fort. Celui-là m'est vraiment venu lorsque je réponds à cette annonce de casting. Je me rends sur place. J'ai chanté sûrement faux comme une casserole, mais j'avais ce rêve de voyages et des rencontres. Donc, les musiciens de l'époque m'ont pris, m'ont accepté et je n'ai plus jamais arrêté. Et là où je trouve très, très fort dans ce parcours, qui est bien évidemment rempli de hauts et de bas, et qui parfois était très caillouteux, c'était plein d'avoir pris une décision si forte, si importante, si jeune. C'est ça pour moi, et d'avoir resté avec ça. Et donc, c'est là où je dis qu'en effet, inconsciemment, peut-être ce rêve, il était, cette envie, il existait, mais il s'est vraiment déclenché lors de cette réponse à ce casting. Et après, toute la suite, parce que je n'ai jamais arrêté de chanter. Même quand je suis arrivée en France, que je faisais des petits boulots à droite, à gauche, à la femme des ménages, garder des personnes âgées, garder des enfants, tout ce que vous voulez, qu'on devrait faire pour travailler, pour gagner un peu de sous, pour survivre. J'ai continué de chanter, j'ai chanté dans le métro, j'ai chanté dans la rue, j'ai passé le chapeau, voilà, j'avais fait toutes sortes de choses que je n'avais jamais fait auparavant. Au nom de la musique, au nom de l'envie de me former, de devenir un être humain mieux, plus empathique, de vivre de mon art. Donc, je pense que cette résilience, elle est due vraiment d'une à la musique et d'une passion, bien évidemment, qui a fini par me plomber.
Et justement, je voulais aussi revenir à cette lettre manuscrite, parce qu'en fait, dedans, vous expliquez comment en fait l'envie de faire ce nouvel album est survenue. Et c'est assez drôle parce que c'était vous lire, c'était en écoutant vos musiques préférées de l'époque, tout en mangeant du pop-corn, que l'idée soudaine est venue de faire ce nouvel album. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça s'est passé? Ça a été quoi le déclic?
Il y a eu plusieurs déclics en même temps. Donc d'abord, comme je vous ai dit au début de l'interview, je me suis trouvée vraiment face à la page blanche où je ne savais pas vraiment où j'allais. Et je ne sais pas, en quelques jours, il y a eu cette phrase qui m'est arrivée. Nous vivons nos 20 premières années. Après, il y a eu ce retour un petit peu dans mon adolescence par des photos. Dès quand j'ai chanté là-bas au Brésil, des photos, des archives que j'ai commencé à regarder. Et le popcorn, c'est quelque chose de mon enfance que je n'ai toujours pas quitté. J'adore ça. Pareil pour le chewing-gum et toutes les boissons sucrées. Voilà, j'ai toujours entretenu en fait cet enfant qui parfois, qui a eu des moments où l'enfance a été coupée par des fatalités de la vie. Et j'ai dû devenir adulte très tôt dans ma vie. Donc, j'essaie toujours d'entretenir l'enfant qui est dans moi. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cet ensemble-là de femmes-enfants, d'adultes-enfants, l'ensemble de tout qui m'a donné envie d'écrire ça. Et par la suite, tout mon matériel de promotion, il était aussi parti de la page blanche. Ça veut dire ma première affiche que j'annonçais, j'allais revenir avec un nouvel album. C'était tout simplement une feuille A4, écrit mon nom dessus, nouvel album 2024. Vous savez, je voulais vraiment... Beaucoup de gens se sont moqués, mais c'était une vraie stratégie de retour, en fait. Je dis, voilà, je veux partir de zéro, et ça va être le leitmotiv de tout ce disque. Et par la suite, les vidéos que vous avez vues, qui sont les vidéos des paroles et les vidéos, je les fais toutes sous un fond blanc, parce que... Voilà, moi, je ne suis que ça, une page blanche que je dois remplir sans cesse de mon art et des envies, des choses que j'ai envie de faire.
Il y a une question que je me pose, en fait, c'est cette interconnexion musicale qu'il y a entre le Brésil et la France. Je pense par exemple à des grands noms comme Caetano Valesso ou Gilberto Gil, qui eux aussi sont venus s'installer en France, où leur musique aussi est produite. C'est donc également votre cas, vous habitez aujourd'hui en France. Est-ce que vous pouvez expliquer cette interconnexion qu'il y a entre les deux pays ?
Alors, à savoir que pendant la dictature, l'Angleterre et la France ont accueilli beaucoup des artistes qui furent exilés des forces, parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'était ou arrêter de faire de la musique ou la prison. Donc, il y en a eu énormément d'accords à cette période, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de la présence des artistes brésiliens dans ces deux pays. Et par la suite, il y a aussi des auteurs, des peintres... des musiciens d'autres origines aussi qui se sont installés en France et qui m'ont donné aussi envie d'un moment donné d'avoir ma période parisienne un peu comme Hemingway, comme tout le monde quoi.
Dernière question, c'est quoi la suite, Flavia Coelho? Est-ce qu'on vous êtes donc en tournée, j'imagine que vous êtes concentré sur la tournée, mais est-ce qu'on peut déjà s'attendre à quelque chose?
Oula, non, pas dire ça tout de suite, je veux déjà me concentrer dans une tournée qui est très importante, d'ailleurs, à Brest.
Oui,
je suis très contente de revenir.
Le 8 novembre.
J'adore la Bretagne de tout mon cœur, je suis toujours reçue avec beaucoup d'amour, et je tiens à dire aussi que mes premières connaissances à Paris, c'était des Bretons, des gens extraordinaires, des Fougères, du Maubiran, des Livres Dolérans, voilà, que je suis connue plus tard. Donc voilà, pour moi, la suite, c'est ça, c'est déjà un beau concert à Brest et que les Brestois soient toujours au rendez-vous, comme à chaque fois.
On y sera. Merci beaucoup, Flavia Coelho.
Merci à vous.
Au revoir.
C'était Flavia Coelho que l'on retrouvera à la Carène le 8 novembre à 20h30. Son dernier album, Jinga, que je vous conseille vivement, est disponible sur les plateformes. Merci encore à Sébastien et Anna de nous avoir présenté le Festival Quartier qu'on retrouvera le 31 octobre au patronage laïque de Bellevue. On rappelle que si vous voulez vous y rendre, toutes les infos sont disponibles sur le site de Brest Métropole et le site de Brest Bellevue. Nous, on se dit déjà au revoir, mais on se retrouve demain, même heure, sur Radio U. Bonne soirée à toutes et à tous.